Alors voilà, on a proposé comme sujet les sacrifices du Lévitique. Alors peut-être que pour certains, c'est un sujet complètement nouveau qui peut paraître très compliqué, très difficile. Et voilà, l'objectif de cette réunion, c'est d'essayer de faire comprendre quelque chose de ce qui se cache derrière ces sacrifices et qu'est-ce qu'ils annoncent en fait à l'avance et essayer donc de les mettre dans la lumière du Nouveau Testament pour qu'ils puissent vraiment nous enseigner. Est-ce qu'on peut dire que l'Ancien Testament est une illustration de la vérité du Nouveau Testament? Et peut-être que dans le Nouveau Testament, les choses sont données de manière plus générale et que l'Ancien Testament nous donne beaucoup plus d'images concrètes, pratiques. Et ces images concrètes, pratiques nous aident à comprendre les vérités peut-être plus générales du Nouveau Testament. Alors, donc le Lévitique, c'est le troisième livre de Moïse. Et avant de parler directement des sacrifices du Lévitique, j'aimerais faire une petite introduction en rapport d'abord avec le sujet des sacrifices et aussi en rapport avec le livre du Lévitique. Alors, quand on lit la Bible depuis le début, on voit qu'il est question de sacrifices déjà avant le livre du Lévitique. Et là, je liste quelques exemples, ou peut-être les exemples principaux, où on voit des sacrifices avant donc le Lévitique. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas un sujet nouveau. Le sacrifice, voilà, c'est pas un sujet que le Lévitique révèle pour la première fois, mais le Lévitique va nous donner beaucoup plus de détails sur ce sujet. Donc, par exemple, dans la Genèse, on voit au moins plusieurs sacrifices. On a le sacrifice, j'allais dire, sous-entendu de Genèse chapitre 3. Parce que Dieu va revêtir Adam et Ève de vêtements de peau. Alors même si ce n'est pas écrit expressément, explicitement, il est sous-entendu qu'un animal a été mis à mort pour pouvoir récupérer sa peau, pour pouvoir en faire un vêtement pour Adam et Ève. Donc il y a, on pourrait dire, un sacrifice sous-entendu dans Genèse 3, avec la pensée de revêtir Adam et Ève qui étaient nus et qui en avaient honte et ils avaient besoin d'être revêtus. On voit aussi un peu plus tard, dans le chapitre suivant, avec Abel et Caïn qui ont eu cette pensée de s'approcher de Dieu avec un sacrifice, une offrande. On sait que Abel et Caïn ont apporté des offrandes très différentes et que celle d'Abel a été reçue, acceptée par Dieu et pas celle de Caïn. Donc il y avait de nouveau était de nouveau question d'un sacrifice avec la pensée de comment s'approcher de Dieu. Avec Noé, il y a de nouveau un sacrifice. Et avec Noé, c'était après le déluge. Et donc sur cette terre purifiée par le déluge, la première chose que Noé a faite en sortant de son arche, ça a été d'offrir des sacrifices, des animaux purs. Et il est dit dans Genèse 8 que ces sacrifices ont été une odeur de repos, que Dieu a flairé une odeur de repos dans ces sacrifices. Donc, encore question d'un sacrifice. Il y a bien sûr le Genèse 22 où Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Donc là, on a une illustration du fait que c'est le fils qui sera le vrai sacrifice. Et puis, de manière plus générale aussi, on a dans la Genèse plusieurs fois les patriarches qui bâtissent des autels. Donc c'était pour offrir des sacrifices à Dieu. Donc on voit cette activité, cette action de bâtir des autels. Et puis, on a aussi dans Exode l'agneau de la Pâque qui est offert et qui permet aux Israélites d'être mis à l'abri du jugement de Dieu contre les premiers-nés. Et puis aussi, je mentionne, ça, quelque chose d'assez touchant, c'est les sacrifices que Job offrait en rapport avec ses enfants. Et Job, chronologiquement, on peut penser qu'il vivait, on va dire, au temps des patriarches de la Genèse. Donc tout ça, c'était antérieur au Lévitique. Donc ce que je veux montrer par là, c'est que les sacrifices, ce n'était pas quelque chose de nouveau avec le Lévitique, c'est quelque chose qui existait, qui était compris par les croyants, et c'était essentiellement en rapport avec le péché. Et donc, il faut, voilà, le sacrifice, il y a un sacrifice parce qu'il y a eu péché au préalable, et on peut dire que, d'une manière générale, le sacrifice permet à Dieu de montrer à la fois son amour et sa justice. Sans sacrifice, l'homme ne pourrait pas être dans la faveur de Dieu à cause du péché. Donc sans sacrifice, on ne pourrait pas connaître l'amour de Dieu. Mais de notre côté, sans sacrifice, Dieu ne serait pas juste. Et donc le sacrifice permet à manifester à la fois l'amour de Dieu qui donne un sacrifice pour que l'on puisse entrer dans sa faveur. Et en même temps, le sacrifice permet de montrer la justice de Dieu qui dans un sens, la justice de Dieu dans le sens que la colère de Dieu s'abat sur une victime. Donc voilà, sacrifice permet à Dieu d'agir à la fois en amour et en justice. Juste, je précise encore une chose, vous pouvez interrompre pour poser des questions au fur et à mesure. C'est pas, il faut pas attendre que je m'arrête. S'il y a des questions qui viennent à l'esprit, n'hésitez pas à lever la main et à les poser pour qu'on y réponde au fur et à mesure. Donc voilà. Et puis aussi peut-être une remarque pour ceux qui s'intéressent. Souvent dans la Genèse, il est question d'holocauste. Et même Job offrait des holocaustes, il est dit. Et il me semble que avant le début du Lévitique, on va dire, il était uniquement question d'Holocauste, ou principalement, je crois, et il n'y avait pas encore cette nuance, cette distinction entre les différents types de sacrifices que l'on va voir. Donc l'Holocauste, c'était le sacrifice au sens général. Voilà. Donc, il y avait des sacrifices avant le Lévitique. Ensuite, comme on va parler du Lévitique, juste encore quelques mots d'introduction en rapport avec le livre du Lévitique. Donc, Moïse a écrit cinq livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et on peut dire que ces livres, ils sont très, très riches en enseignements et ils sont complémentaires. Et ils ont, on pourrait dire, chacun plus ou moins voilà, des sujets, ils ont leurs propres sujets qui sont différents les uns des autres, mais complémentaires. Et pour donner un peu un résumé, on pourrait dire ceci, que la Genèse donne d'une façon illustrée quasiment tous les sujets de la Bible. Tout ce qui va être après développé dans toute la Bible, ça se trouve, on pourrait dire, illustré dans le livre de la Genèse. Donc, la Genèse, c'est. C'est pas la bonne expression, mais c'est voilà, c'est la Bible en miniature. L'Exode, le sujet de l'Exode, c'est la rédemption, c'est-à-dire qu'il y avait un peuple qui était esclave en Égypte, et Dieu va le racheter, le délivrer. C'est la rédemption. Et c'est ce qu'on voit dans la première partie de l'Exode, et dans la deuxième partie, on voit que Dieu va, avec le tabernacle, habiter au milieu de ce peuple qu'il a racheté. Donc, l'Exode, en résumé, la rédemption, et l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Le livre du Lévitique, le troisième, on pourrait dire que le grand sujet du livre de Lévitique, c'est s'approcher de Dieu. Donc, Dieu habite au milieu de son peuple, sur la base de ce qu'on a vu dans l'Exode, et maintenant, Dieu, qui habite au milieu de son peuple, désire que ceux qu'il a rachetés s'approchent de lui. Et donc, dans le livre de Lévitique, il est question de s'approcher de Dieu. Comment on s'approche de Dieu? Qui s'approche de Dieu? Sur quelle base on s'approche de Dieu? Et aussi, on pourrait dire, ce qu'il convient à la vie de ceux qui s'approchent de Dieu, les sacrificateurs. Voilà, ça c'est un résumé succinct de l'Exode, du Lévitique, pardon. Après, dans Nombre, on a le peuple qui marche dans le désert, et avec, on pourrait dire, la marche, le combat et le service du peuple qui marche à travers le désert. Et le Deutéronome, on se trouve juste avant d'entrer dans le pays de la promesse, et Moïse parle au peuple, et il appelle à se souvenir de ce qui s'est passé, et il appelle aussi à l'obéissance en vue de l'habitation dans le pays promis. Donc voilà un petit résumé pour situer le contexte dans lequel on va parler du livre du Lévitique. Toujours pas de questions ? N'hésitez pas. Alors, peut-être que cette image, elle est connue de la plupart. Donc c'est une image du tabernacle. Donc, on voit en fait ce lieu de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple autrefois. Donc, il y avait tout autour un parvis, toutes ces tentes-là accrochées à des piliers. C'est ce qu'on appelle le parvis. Et on entrait par la porte du tabernacle. On arrivait à l'autel des holocaustes, qu'on appelle l'autel des holocaustes, où étaient offerts les animaux en sacrifice. Après cet autel, il y avait la cuve d'airain dans laquelle les sacrificateurs se lavaient pour pouvoir entrer dans le tabernacle, la tente à l'intérieur. Et on ne le voit pas ici, mais cette tente, ce tabernacle, était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Et donc, les sacrifices dont on va parler était offert sur cet autel que l'on voit entre la porte du parvis et la cuve d'airain. C'était un autel où il y avait du feu qui brûlait et où étaient offerts les animaux en sacrifice. Toujours en introduction, juste quelques remarques importantes, il me semble, sur la notion de type, c'est-à-dire ce qu'on appelle type, ce sont les choses de l'Ancien Testament, qui peuvent être des objets, des sacrifices, des personnes, qui en fait illustrent quelque chose. Et ce qu'on appelle le type, c'est la chose de l'Ancien Testament, ou la personne, et l'antitype, c'est la réalité, ce que la chose, ce que le type annonce, c'est ce qu'on appelle l'antitype. Par exemple, l'agneau de la Pâque, c'était le type du Seigneur qui est appelé l'agneau de Dieu. Je pense que tout le monde connaît ça, mais je le dis au cas où. Donc, les types sont des images ou des illustrations. Quand on réfléchit au type de l'Ancien Testament, donc à toutes ces illustrations, il faut comprendre que les types nous enseignent de deux manières différentes. Ils nous enseignent en nous donnant des parallèles et en nous donnant des contrastes. Par exemple, je reparle de l'agneau de la Pâque, c'était un agneau qui devait être sans défaut. Et donc, l'agneau sans défaut, c'était si on fait le parallèle, nous parle du Seigneur qui était l'homme parfait. le sacrifice parfait. Donc, un parallèle. Mais il y a aussi des choses qui sont des contrastes, des choses que l'on voit dans l'Ancien Testament, mais qui sont en contraste avec ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Et par exemple, on voit que dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient répétés, toujours répétés. On offrait de nouveau à chaque fois des victimes sur l'autel en sacrifice. Et le Nouveau Testament nous explique, notamment dans l'Épître aux Hébreux, que ça c'est fini et que le sacrifice de Christ, il a été offert une fois pour toutes et qu'il n'a pas besoin d'être répété. C'est définitif. Donc, voilà, il faut comprendre aussi, réfléchir quand on lit l'Ancien Testament. Il y a des choses où on peut faire des parallèles et des choses où il faut comprendre des contrastes. Par exemple, il y a un verset, je crois que c'est Hébreux 10, qui nous dit que dans l'Ancien Testament, il y a l'ombre des biens à venir et non pas l'image des choses. L'ombre et non pas l'image. C'est-à-dire, il y a quelque chose, l'ombre, c'est quelque chose qui nous donne une bonne indication, mais qui ne nous donne pas l'exactitude, le détail. L'ombre, mais pas l'image. Donc l'Ancien Testament nous donne des ombres qui nous permettent de comprendre, mais les choses exactes, elles sont dans le Nouveau Testament. Et voilà, et donc je mets à la fin ici sur ce diapo que, du coup, il faut comprendre que l'Ancien Testament est en fait une illustration du Nouveau Testament, mais comme il y a des parallèles et des contrastes, comme il y a des ombres seulement et pas l'image même des choses, on ne peut pas bâtir des doctrines simplement sur la base de ce que l'on voit dans l'Ancien Testament. D'accord ? Donc, si, par exemple, voilà, l'exemple des sacrifices qui se répétaient, si je pense que il faut faire exactement comme dans l'Ancien Testament et je répète des sacrifices, bien je passe à côté de ce que le Nouveau Testament révèle. D'accord ? Donc, l'Ancien Testament illustre, mais on a besoin du Nouveau Testament pour comprendre les choses avec exactitude. Alors, là, c'est... Voilà. Je répéterai un peu le même message avec ça. Donc, on a dit que le sujet du Lévitique, c'était s'approcher de Dieu. Eh bien, quand on lit dans le Lévitique les enseignements en rapport avec le fait de s'approcher de Dieu, et qu'on compare avec le Nouveau Testament, on voit qu'il y a des parallèles et des contrastes. D'accord ? Donc, des parallèles en ce que l'homme est loin, et il a besoin d'être approché de Dieu, et il est approché par Christ, le sacrifice. Donc ça, ce sont des parallèles. Mais des contrastes, on voit que dans l'Ancien Testament, pour s'approcher de Dieu, il fallait un rituel, il fallait des choses matérielles, et puis il y avait une certaine limite, tout le monde ne pouvait pas s'approcher dans la présence même de Dieu. Donc on voit que c'est quand même différent. Il y a des parallèles et des contrastes. Donc on a vraiment besoin du Nouveau Testament pour bien comprendre les choses. Voilà, j'espère que c'était pas trop. Alors maintenant, on s'approche des sacrifices, et on pourrait dire, en fait, finalement, ces sacrifices de l'Ancien Testament, de quoi ils nous parlent ? Et on pourrait dire que la première application, c'est que ces sacrifices nous parlent de la personne du Seigneur et de son œuvre sur la croix. Et là, je cite quatre versets du Nouveau Testament qui confirment que ces images de l'Ancien Testament nous parlent vraiment de la mort de Christ à la croix. Donc, Éphésiens 5, verset 2, « Christ s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. C'est une référence à ces sacrifices que l'on va voir. Pareil, Hébreux 9, verset 14, le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache. C'est une référence aussi à l'Ancien Testament. Hébreux 9, Christ étant venu, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est une allusion à ce que l'on voit dans le livre du Lévitique, mais appliqué vraiment au Seigneur Jésus. Et Hébreux 10, celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Donc, on voit clairement que le Nouveau Testament confirme, montre que on peut appliquer, on peut voir dans les sacrifices du Lévitique l'œuvre du Seigneur Jésus. Peut-être que c'est évident pour tous, mais au cas où, je veux le rappeler. Il y a une autre application. Ces sacrifices nous parlent de ce que l'on appelle le culte, l'adoration. C'est-à-dire que de voir ces hommes et ces femmes qui s'approchaient de Dieu, du tabernacle, avec des sacrifices, ça nous parle, pour nous, de s'approcher de Dieu pour l'adorer, pour lui rendre culte. Et là, on voit d'autres versets du Nouveau Testament qui confirment cela. Par exemple, 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes édifiés une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hébreux 13, offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. 1 Corinthiens 10, là où il est question de la table du Seigneur, Paul dit « Considérez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel ?» Donc, Paul, pour expliquer ce qu'est la table du Seigneur, il fait référence aux sacrifices et à la façon dont les sacrifices étaient mangés dans le Lévitique. Et enfin, Apocalypse, par exemple, nous dit que le Seigneur nous a fait roi et sacrificateur pour son Dieu et Père. Donc nous sommes ces sacrificateurs qui s'approchent de Dieu et qui offrent des sacrifices. Donc, dans le sacrifice, on voit l'œuvre du Seigneur, mais on voit aussi les croyants qui s'approchent de Dieu pour lui apporter l'adoration et des sacrifices spirituels. C'est-à-dire que ce qui est matériel dans l'Ancien Testament, il faut le comprendre au sens spirituel, et c'est ce que nous apportons dans l'adoration à Dieu. Ça, c'est un point très important. Et on peut dire aussi, je ne l'ai pas noté ici, mais qu'il y a une autre application, peut-être même avant celle-ci, c'est comment un pécheur peut s'approcher de Dieu. Un pécheur ne peut s'approcher de Dieu que par le sacrifice. Donc on a le sacrifice nous montre le chemin du pécheur vers Dieu, comment un pécheur peut être reçu par Dieu, par le sacrifice. Mais aussi, cela nous montre, ces sacrifices nous montrent comment un adorateur s'approche de Dieu pour lui offrir quelque chose qui est agréable. Dans le début du Lévitique, il est question de 5 sacrifices, alors, qui s'appellent l'Holocauste, chapitre 1, l'offrande de gâteau, chapitre 2, le sacrifice de prospérité, chapitre 3, et enfin, il y a 2 sacrifices qui sont liés, sacrifice pour le péché et sacrifice pour le délit, dans Lévitique 4 et 5. Et ensuite, dans Lévitique 6 et 7, il est question des lois de ces sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a des indications supplémentaires qui sont données et qui expliquent comment il fallait faire avec les restes de ces sacrifices et comment est-ce qu'il fallait les manger, ne pas les manger, qui pouvait les manger, qui ne pouvait pas les manger, dans quelles conditions, etc. Ça, c'est donné dans la loi des sacrifices. Donc, cinq sacrifices qui ont donc des caractères différents, et c'est ce qu'on va essayer de présenter. Alors, avant de parler de l'Holocauste, je voudrais donner un petit tableau, un petit résumé. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un peu tôt, mais c'est pour donner les différences essentielles entre ces cinq sacrifices. Donc, d'abord, première ligne, la question c'est, est-ce que du sang était versé ? Est-ce que c'était un animal qui était mis à mort et son sang était versé ? Alors, on voit que dans l'Holocauste, il y avait bien un animal qui était mis à mort, pas dans l'offrande de gâteau, il n'y avait pas d'animal, c'était de la farine et du pain. Ensuite, dans les autres sacrifices, il y avait effectivement du sang qui était versé. Donc, on peut distinguer sacrifice où le sang était versé et sacrifice où il n'y avait pas d'animal, pas de sang. Deuxième ligne, pour certains sacrifices, il était dit qu'ils étaient des odeurs agréables à Dieu. Et ce sont les trois premiers. Holocauste, offrande de gâteau, sacrifice de prospérité, c'était des offrandes qui étaient agréables à Dieu. Une bonne odeur pour Dieu. Dans les deux derniers sacrifices, il n'est pas dit que c'était des odeurs agréables à Dieu. Et je précise ici que les trois premiers sacrifices, c'était des sacrifices volontaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation à les offrir, c'était volontaire, celui qui était animé dans son cœur, qui avait ce désir dans son cœur, pouvait venir s'approcher de Dieu et offrir volontairement ses sacrifices. Il n'y avait pas d'obligation. Tandis que les deux derniers, qui n'étaient pas des odeurs agréables, ils avaient un caractère obligatoire. C'est-à-dire que si quelqu'un avait péché, il était dans l'obligation d'apporter un sacrifice pour le péché ou pour le délit, pour être pardonné. Donc on voit là déjà une nuance importante. Les trois premiers volontaires, les deux derniers obligatoires. Ensuite, il y aurait d'autres détails, mais je ne vais pas les donner tous parce que on va aller trop loin. Mais on peut voir les différences entre les animaux qui étaient offerts. Dans chacun de ces sacrifices, il y avait différents animaux. Dans certains cas, il fallait offrir que des mâles. Dans certains cas, des femelles. Dans certains cas, ça pouvait être mâle ou femelle. Donc Dieu disait ce qu'on devait offrir. Il y a donc des différences. Et certains de ces sacrifices pouvaient être mangés par les hommes, d'autres pas du tout, et certains en partie. On va voir ça. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un point important. On peut se poser la question, c'est tel et tel sacrifice, qui c'est qui pouvait en manger ? Est-ce qu'on pouvait en manger ? Qui ? Pourquoi ? Et enfin, on pourrait faire un parallèle entre ces sacrifices et les évangiles et ces sacrifices et certains psaumes. Mais peut-être pas maintenant parce que ça va nous amener trop loin. Donc une introduction qui dure presque 30 minutes, c'est plus qu'une introduction. D'accord ? Donc là, j'ai essayé de faire un peu une présentation, une introduction sur ces sacrifices qui sont présentés dans le Lévitique. D'accord ? Donc, holocauste, offrande de gâteau, sacrifice de prospérité, ça, ce sont des sacrifices d'odeur agréable, volontaire, et ensuite, une deuxième famille de sacrifices, les sacrifices obligatoires, sacrifice pour le péché, sacrifice pour le délit. Alors, pas de questions ? Alors, on parle un peu de l'Holocauste et après on fera notre pause. Alors, l'Holocauste, c'est le premier sacrifice qui est décrit. Et on peut dire que, déjà, c'est le premier qui est décrit, et dans un certain sens, c'est le plus important. Pas que les autres ne sont pas importants, mais c'est qu'il a une place au-dessus des autres. C'est le premier, déjà. Et aussi, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un autel dans le tabernacle, dans le parvis du tabernacle, et cet autel, il était appelé « autel de l'Holocauste ». Ça montre déjà que c'est un sacrifice qui avait une place au-dessus des autres parce que c'était de son nom qui était appelé l'autel. D'accord ? Et c'est aussi, je ne vais pas développer ça maintenant, mais c'était aussi un sacrifice de référence. C'est-à-dire que quand il y avait d'autres choses, des accompagnements qui devaient être offerts avec le sacrifice, c'était toujours par rapport à l'Holocauste. Donc, tout ça pour dire, l'Holocauste, le premier des sacrifices, qui donne son nom à l'autel, le sacrifice qui a une place suprême. D'accord ? Et alors, qu'est-ce qui était particulier pour l'Holocauste ? Alors, l'Holocauste, il avait ceci de particulier, c'était que c'était le seul sacrifice qui était offert entièrement à Dieu. C'est-à-dire que, on verra, dans les autres sacrifices, il y avait différentes parties. Il y avait des parties qui étaient offertes à Dieu et des parties qui étaient pour les hommes. Mais ce qui fait la particularité de l'Holocauste, c'est que dans l'Holocauste, tout était offert pour Dieu. Tout. Sauf, je crois, la peau du sacrifice qui était donnée au sacrificateur. Mais tout était pour Dieu. Et donc, en fait, ce que l'on a illustré dans l'Holocauste, c'est l'aspect de la mort du Seigneur qui s'est offert à Dieu. Comme on a lu, on a cité Hébreux 9 tout à l'heure, Hébreux 9, verset 14, où il est dit « Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. » Donc, l'Holocauste, je répète, où tout est pour Dieu, ça présente l'œuvre du Seigneur en rapport avec Dieu, directement. C'est-à-dire, ce que Dieu a trouvé dans son Fils, dans son œuvre sur la croix. Il n'est pas question tellement de ce que cela est pour nous, mais d'abord l'œuvre du Seigneur Jésus aux yeux de Dieu. Et toute la satisfaction que Dieu a trouvée dans son Fils par son œuvre à la croix. D'accord ? Donc ça, s'il faut retenir une chose de l'Holocauste, c'est celle-ci. C'est l'Holocauste nous présente ce que le Seigneur Jésus a été dans sa mort pour Dieu. Tout est pour Dieu dans l'Holocauste. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire le rouge là. Pas trop. Alors, là, c'est le texte de Lévitique 1 que j'ai mis. Et il y a en rouge, il me semble, ce qui est vraiment spécial en rapport avec l'Holocauste. Il est dit, donc d'abord, l'Holocauste, il y a trois paragraphes. On oublie le premier, les trois autres. L'homme qui voulait offrir un holocauste, il pouvait offrir un taureau, du gros bétail. Ils pouvaient offrir un mouton ou une chèvre du menu bétail, ou ils pouvaient offrir des oiseaux en holocauste. Donc trois possibilités. Mais on va dire que on voit dans la première description, versets 3 et suivants, que tout était pour Dieu. Et ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a cette expression qui est répétée. Celui qui s'approchait, il est dit, pour être agréé devant l'Éternel. On a deux fois, verset 3 et verset 4, être agréé devant l'Éternel. Et donc, ce sacrifice offert, l'Holocauste, c'était le moyen pour celui qui offrait d'être agréé devant Dieu, rendu agréable, acceptable devant Dieu par cette victime, par cet animal. Et on voit que celui qui l'offrait, il est dit qu'il posait, verset 4, il posait sa main sur la tête de l'animal pour être agréé. C'est-à-dire que l'animal qui représente le Seigneur Jésus dans son œuvre à la croix pour Dieu, donc le sacrifice parfait et agréable pour Dieu, eh bien, celui qui l'offrait, il mettait ses mains dessus, et il était identifié, et on peut dire que toute la perfection de la victime était imputée à celui qui l'offrait. Donc il y avait un transfert de perfection, entre guillemets, de la victime vers celui qui l'offrait, qui posait ses mains dessus. D'accord ? Donc l'imposition des mains représentait le fait que celui qui offrait s'identifiait avec la victime, et la victime transférait sa perfection, en quelque sorte, sur celui qui l'offrait. Et donc cela, on l'a, par exemple, dans le Nouveau Testament, il nous est dit, nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. Éphésiens 1, verset 4, ou verset 6 plutôt. Donc, ce geste du de l'adorateur, de l'homme qui mettait ses mains pour être agréé, le Nouveau Testament nous dit que nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. Donc vous voyez, une victime parfaite, et cette victime parfaite nous rend nous-mêmes agréables devant Dieu. Ça, c'est la pensée fondamentale de l'Holocauste. Et quand on... Quand on regarde encore l'Holocauste, on voit que la victime, elle était découpée en morceaux, la tête, l'intérieur, les jambes, tout était découpé en morceaux et tout était présenté, arrangé sur l'autel, sur le bois, sur le feu qui était sur l'autel. Ces morceaux étaient arrangés, placés devant Dieu. Et c'était même des morceaux qui étaient lavés avec de l'eau. Et tout ça était devant Dieu. Et tout ça était une odeur agréable à Dieu. Et on peut dire que cela représente tous ces morceaux de la victime, de l'animal. Ça représente, on pourrait dire, les détails de la personne de notre Seigneur. Par exemple, les jambes, ça nous parle de la marche de notre Seigneur Jésus. L'intérieur, il est dit que l'intérieur était mis aussi sur l'autel, ça nous parle du cœur et des sentiments de notre Seigneur, de son obéissance, de son amour. Et donc tout ça, la tête, ça nous parle des pensées de notre Seigneur. Et donc la tête, l'intérieur, les jambes, tout était mis comme ça sur l'autel devant Dieu. Et tout cela nous montre en fait la satisfaction que Dieu a pu avoir dans son Fils quand il s'est offert sur la croix. Donc Dieu a pu voir quelles étaient les pensées de son Fils, quels étaient les sentiments, son obéissance, son amour. Tout cela était devant Dieu et c'était une odeur agréable à Dieu. Donc on comprend que ça, c'est des sujets élevés. Et donc quand on adore Dieu, par exemple le dimanche matin, quand on adore Dieu, la question c'est de quoi on parle à Dieu ? Qu'est-ce qu'on apporte spirituellement à Dieu ? Dans nos prières, dans nos cantiques, dans nos pensées, quand il y a des silences, dans nos pensées, est-ce que ce sont ces sujets-là que nous apportons à Dieu ? Et en tout cas, ce sont les sujets qui sont une odeur agréable à l'Éternel. Donc de penser à ce que le Seigneur Jésus a été dans sa mort pour Dieu, l'Holocauste. Il y a un verset, je pense, qui est important aussi en rapport avec ce sujet. C'est Jean 13, verset 31. Jean 13, 31. Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Donc, je mentionne ce verset en rapport avec l'Holocauste. Le Seigneur, le Fils de l'homme, est glorifié, c'est-à-dire que avec la croix, toutes les perfections du Seigneur Jésus ont été manifestées. C'est ça, être glorifié. Quand quelqu'un est glorifié, c'est que toutes ses qualités sont manifestées. Et donc, le Seigneur, il peut dire, maintenant, en rapport avec la croix qui s'approchait, le Fils de l'homme est glorifié. Et il rajoute, et Dieu est glorifié en lui. C'est-à-dire que toutes les qualités de Dieu allaient être aussi manifestées à la croix. Et ça, c'est un sujet profond. De voir qu'à la croix, lors de l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix, non seulement les qualités du Seigneur ont été manifestées, son amour, qui pouvait se donner pour les autres jusque-là. Donc on voit son amour, son obéissance, sa confiance, sa tendresse, toutes ces qualités du Seigneur, elles ont brillé à la croix plus qu'ailleurs. Mais pas seulement ses propres qualités à lui, mais aussi, on pourrait dire, les qualités de Dieu. Dieu est glorifié en lui. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amour de Dieu a brillé à la croix plus qu'ailleurs. L'amour de Dieu, on le voit à la croix dans le fait qu'il donne son Fils unique pour les hommes. On voit aussi la justice de Dieu qui brille à la croix. Parce qu'il fait la justice parce que le Seigneur s'est chargé de nos péchés et il juge son Fils en quelque sorte, il juge le Seigneur qui a pris ses péchés, nos péchés sur lui. Et on pourrait réfléchir encore à toutes les qualités de Dieu. Et elle brille à la croix plus qu'ailleurs. Et donc, toutes ces pensées-là, ce sont les pensées liées avec l'Holocauste. Tout pour Dieu. Et Dieu glorifié. Après, peut-être deux remarques encore sur l'Holocauste. On voit, il y avait plusieurs... on pouvait apporter du gros bétail, un taureau. On pouvait apporter du menu bétail. Peut-être pour celui qui avait moins de moyens, qui était moins riche. Le plus riche pouvait apporter un taureau, moins riche, il apportait un mouton ou une chèvre. Et peut-être qu'il y avait quelqu'un encore plus pauvre qui ne pouvait pas avoir de mouton ou de chèvre. Et Dieu dit, ben, il peut apporter un oiseau, deux oiseaux. Et cela, ces différents types d'animaux qui pouvaient être offerts, gros bétail, menu bétail, oiseaux, je comprends que ça représente en fait non pas notre richesse matérielle, mais peut-être notre compréhension de la mort du Seigneur Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un, pour prendre l'image, qui a une compréhension profonde de la mort du Seigneur, c'est peut-être celui qui apporte le taureau. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est plus simple et qui est moins avancé, et il va apporter un oiseau ou deux oiseaux. Mais voilà, on a des compréhensions, des appréciations différentes, plus ou moins avancées, mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, Dieu dit, c'est une odeur agréable à l'Éternel. C'est-à-dire qu'on apporte deux oiseaux, un mouton ou un taureau, on était agréé devant Dieu de la même manière. Donc, il y a peut-être de notre côté des appréciations différentes, mais Dieu ne méprise rien. Il ne méprise pas celui qui a une moindre appréciation et il le reçoit de la même manière que celui qui a une plus grande appréciation et parce qu'il voit le sacrifice. D'accord ? Donc, Dieu ne méprise pas celui qui s'approche, ne serait-ce qu'avec deux oiseaux. Voilà ce que je voulais dire. Et peut-être une dernière pensée. Une dernière pensée. Alors c'est sûr que j'ai oublié plein de choses, mais je pense que, ouais, peut-être deux choses encore à dire. Il est dit à chaque fois, verset par exemple, verset 9, verset 13, il est question de que le sacrifice, il fumait sur l'autel. Fumait. Et c'est un mot qui est différent de brûler. Le fait de fumer sur l'autel, c'était vraiment comme un encens, une bonne odeur qui montait vers Dieu. Donc c'est un verbe qui montre comment Dieu a été réjoui, honoré, glorifié dans l'œuvre de son Fils. C'est un sacrifice qui fumait devant Dieu, qui montait vraiment comme une bonne odeur. Et puis, voilà, une autre chose aussi, je pense, en rapport avec le sacrifice, les sacrifices volontaires, ce qui est remarquable, c'est que l'Holocauste, donc, il fait partie des trois sacrifices volontaires, c'est-à-dire que personne n'obligeait un Israélite à venir offrir un Holocauste. Mais s'il voulait, voilà ce qu'il devait faire. Et je trouve que c'est important de comprendre ceci, c'est que dans un sens, Dieu attend de nous une réponse dans nos cœurs, l'aspect volontaire du sacrifice. Donc ça, c'est important. Il ne nous oblige pas. S'il ne nous oblige pas à nous approcher de lui avec un holocauste. Mais si quelqu'un désire apporter un holocauste, ça sera une odeur agréable à Dieu. Donc il y a ce côté volontaire, mais il y a aussi le côté, j'allais dire, que Dieu dit, d'accord, vous m'apportez volontairement un sacrifice, mais voici les indications précises, ce que vous devez faire précisément. Et ça nous montre aussi qu'il y a toujours un aspect obéissance de notre part. On ne peut pas dire, bon, moi j'apporte un sacrifice volontaire à Dieu, c'est volontaire, je vais faire comme je veux. Et puisque c'est volontaire, je peux faire comme je veux. Non. Dieu dit oui, j'attends en quelque sorte, vous pouvez m'offrir volontairement, mais si vous voulez m'offrir volontairement, voilà comment vous devez faire. Donc vous voyez, c'est intéressant ça, on voit à la fois l'aspect volontaire du cœur, mais qui n'est jamais dissocié de l'obéissance à ce que Dieu dit, précise. Donc je pense aussi que ça, voilà, ça, c'est important de voir cet aspect-là dans le sacrifice. Donc voilà, je m'arrête là. On peut faire une pause, je pense, maintenant. Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec ce que l'on a vu ? Là. N'hésitez pas. Hein. Non, je ne sais pas. Mais je l'ai mis en rouge parce que c'est une différence. En fait, il y a deux descriptions, le gros bétail, le menu bétail. Et quand on lit précisément, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu différent. Donc je le note, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Deuxième question. Alors, justement, c'est très riche, parce qu'en fait, tu rends compte, quand tu lis, qu'effectivement, il y a un aspect individuel, mais il y a un aspect collectif. Parce que celui qui offre, il vient, mais il ne peut pas offrir tout seul. Il a besoin des sacrificateurs. Il ne fait pas tout seul. Lui, il apporte la bête, il égorge la bête, et après, il y a le rôle des sacrificateurs qui prennent les morceaux, qui les exposent devant Dieu, qui s'occupent du sang, etc. Donc en fait, tu vois par là qu'il y a un aspect individuel qui est associé à un aspect collectif. Et je pense que ça fait réfléchir, parce que dans notre adoration, il faut voir les deux aspects. On ne peut pas dire « moi j'adore que individuellement ». Et parce que celui qui voulait s'approcher, il ne pouvait pas s'approcher tout seul. Il devait se lier avec le système que Dieu avait défini. Tu vois ? Et donc, en fait, ça nous montre que, oui, nous sommes appelés à l'adoration individuellement, mais la vie du croyant, elle n'est pas que individuelle. C'est lié avec l'adoration collective et le rôle des sacrificateurs, etc. Donc les choses vont ensemble. Personne en Israël ne pouvait dire « moi j'adore tout seul, je fais mes sacrifices tout seul chez moi ». Non, c'est impossible. Ce que Dieu avait prescrit, entre guillemets imposé, faisait qu'on ne pouvait pas adorer tout seul. Il fallait le faire dans ce que Dieu avait prescrit, avec l'aspect collectif qu'il avait prescrit, les sacrificateurs, etc.
Il égorgeait, ce n'est pas les sacrificateurs qui égorgeaient, il mettait juste sa main sur la tête.
Alors, celui qui a porté, il est dit, verset 1, « Quand un homme d'entre vous présentera une offrande, donc verset 3, si son offrande est un holocauste, il la présentera. » Verset 4, il posera sa main sur la tête, donc c'est lui. Verset 5, il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel, donc c'est toujours lui. Et après, c'est les sacrificateurs qui entrent en activité. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang, et ils feront aspersion du sang, et etc. Et ensuite, ils mettront le feu sur l'autel, ils arrangeront le bois, le feu, et ils mettront les morceaux, tout ça. Donc, celui qui a porté la bête, il l'a présenté, il l'égorgeait, et une fois qu'il l'avait égorgé, c'était les sacrificateurs qui s'occupaient du reste. Et oui, une chose aussi très importante, en rapport avec l'Holocauste, que l'on voit dans la loi de l'Holocauste, chapitre 6 de Lévitique, c'était Dieu demandait que un holocauste brûle continuellement sur son autel. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, il y avait un holocauste qui brûlait sur l'autel, l'autel qui était dans le parvis du tabernacle. Et ça nous montre que la bonne odeur de l'œuvre du Seigneur, elle est en permanence, on va dire, sous les narines de Dieu, pour ainsi dire. Dieu apprécie continuellement, en permanence, cette bonne odeur qui vient de la mort de son fils. Donc c'était un sacrifice qui devait brûler continuellement, nuit et jour, sur l'autel d'Israël. Voilà, alors je propose qu'on fasse une pause maintenant, et après la pause, on parle de sacrifices suivants, l'offrande de gâteau et sacrifice de prospérité. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler des deux derniers, mais voilà, on aura peut-être donc la possibilité de faire un aperçu des trois sacrifices d'odeur agréable à l'Éternel.